VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Il est 16h à Conakry, 19h à Bujumbura. Nous sommes le vendredi 29 mai 2015. Bienvenue à l'écoute de ce tour d'horizon de l'actualité. En 10 minutes, cap sur le Burundi pour démarrer. Une grenade a explosé ce vendredi à Bujumbura, toujours en proie à une contestation populaire contre la candidature du président Pierre Nkurunziza, un troisième mandat à la présidentielle du 26 juin. D'après Edouard Rouema, un correspondant de la VOA, l'explosion a eu lieu à l'extérieur de la Kenya Commercial Bank. Plusieurs personnes auraient été blessées et transportées à l'hôpital alors que 3 voitures ont été brûlées. Les manifestations ont donc repris ce vendredi, toujours sous les tirs de la police et après une nuit ponctuée de nombreuses rafales d'armes automatiques. Michel Joseph.
Plusieurs quartiers de la capitale burundaise ébranlés par des tirs nourris d'armes automatiques jusque tard dans la soirée d'hier. D'après des témoignages recueillis par l'AFP à Musaga, Chibitoke, Bwiza, la police a tenté de disperser des manifestants qui s'apprêtaient à organiser leur rassemblement. Un véhicule privé a été incendié pendant la nuit à Bwiza. Ce vendredi matin, la police était de nouveau déployée dans ces mêmes quartiers et ratissait les ruelles. Des militaires participaient aux opérations et faisait également des tirs de sommation. Plus d'une trentaine de personnes ont été tuées depuis le début des manifestations. Les chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Est doivent se retrouver ce dimanche à Dar es Salaam pour tenter de sortir le Burundi de la crise.
Dans l'actualité encore, 4 soldats tchadiens et 33 islamistes ont été tués lors d'une attaque de Boko Haram sur une île du lac Tchad mercredi. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'armée tchadienne. Nathalie Barge.
De violents combats ont eu lieu entre Boko Haram et les forces armées du Tchad mercredi à Choua, une île tchadienne du lac Tchad, selon le porte-parole de l'armée, Azem Bermandoa Aguna, précisant que 33 djihadistes ont été abattus. Du côté de l'armée tchadienne, 4 soldats sont morts et 4 blessés, d'après le colonel, qui ajoute que depuis jeudi, l'aviation mène des raids aériens sur les positions des extrémistes sur le lac. Depuis 5 mois, quelque 5000 soldats tchadiens participent à une opération régionale contre le groupe islamiste. De violents combats ont eu lieu depuis janvier dans le nord-est du Nigeria et également sur les territoires nigériens et tchadiens. Les troupes du Tchad interviennent aussi dans le nord du Cameroun, où les djihadistes opèrent depuis au moins 2 ans. N'Djamena a enregistré de nombreuses pertes dans le cadre de cette opération. 71 soldats tchadiens ont péri dans les affrontements.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'est engagé à prendre à bras-le-corps les graves problèmes du pays dans son discours après son investiture à la tête de l'État ce matin. Il a également promis de servir contre ce qu'il a appelé les fous de Boko Haram. Les Nigérians ne vont pas regretter de nous avoir confié la responsabilité de l'État, a souligné le président Buhari. Les défis qui l'attendent avec Claire Morin-Gébour.
Le parti de Muhammadu Buhari, l'APC, dit qu'il hérite d'un pays sinistré, doté d'une économie pratiquement à terre, à cause de la chute des cours du pétrole. En plus de la corruption qui gangrène le pays, M. Buhari va devoir résoudre les problèmes d'énergie chez le plus gros producteur de pétrole du continent, mais qui est privé d'électricité parfois des semaines d'affilée. La question sécuritaire sera un des dossiers brûlants qui attendent le nouveau président, avec l'insurrection du groupe Boko Haram, qui a fait plus de 15 000 morts depuis 2009.
La suite de ce journal après cette petite pause.
Aujourd'hui dans Sahel Plus, reportage au Mali, rencontre avec des migrants survivants qui ont tenté au péril de leur vie de traverser la Méditerranée.
Le départ était bon, mais on a eu un problème, le bateau a cassé. Mais alhamdoulilah, on a eu les pêcheurs qui nous ont sauvés.
Sahel Plus, c'est aujourd'hui à 18h10, temps universel.
Et vous êtes branché sur VOA Afrique. Jacques Aristide à Washington. 2 autres nouvelles africaines pour continuer ce journal. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila démarre aujourd'hui des consultations politiques tous azimuts pour un dialogue aux contours encore flous. Une partie de l'opposition refuse d'y participer en qualifiant l'initiative de manœuvre du chef de l'État à qui la Constitution interdit de se représenter pour retarder l'échéance de la présidentielle de novembre 2016. Anne Albertson.
Monsieur Kabila doit recevoir d'abord les chefs des confessions religieuses, puis les chefs coutumiers, avant de discuter avec ceux des partis politiques de l'opposition, puis de la majorité, des groupes parlementaires et regroupements politiques, pour finir avec les diplomates accrédités en RDC et le chef de la mission de l'ONU au Congo, a-t-on précisé de même source. La Commission électorale nationale indépendante a publié en février un calendrier électoral global prévoyant une série d'élections locales, provinciales, sénatoriales, devant commencer en octobre et mener jusqu'à la présidentielle et aux législatives programmées pour novembre 2016. Les trois grands partis de l'opposition estiment en substance que ce calendrier fait peser une grande incertitude sur la tenue de la prochaine présidentielle dans les délais prévus par la Constitution. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001.
Et pas trop loin, au Congo-Brazzaville voisin, une grande partie de l'opposition fait la sourde oreille à l'appel au dialogue lancé il y a plusieurs semaines par le président Denis Sassou Nguesso. Des consultations préconisées lors d'une conférence de presse où le chef de l'État avait souligné la nécessité de ce dialogue inclusif au sujet d'une possible modification de la Constitution nationale. Le SACER, le service d'action civique et de résistance qui regroupe des opposants congolais à Paris, est résolument contre cette initiative. Son président, John Bennett Zaba.
Tout ce qu'il veut, c'est rester éternellement au pouvoir et endeuiller les Congolais, enfamer les Congolais. Donc l'opposition dans l'ensemble a dit non, non au dialogue avec M. Sassou.
Si vous refusez le dialogue, qu'est-ce que vous proposez ?
Pour nous, M. Sassou doit partir. Il est à la fin de son mandat en 2016, il va partir. Rien ne permet aujourd'hui qu'il se représente. Il est frappé par la limite d'âge. Il est frappé par la limite de mandat.
Et peut-être que vous pouviez aussi le faire par le dialogue, non ?
Mais non, mais c'est pas possible. Il y a eu plusieurs dialogues. Tout est toujours biaisé par M. Sassou. Il y a eu beaucoup de dialogues au Congo.
Et si vous rejetez cette main tendue, est-ce que vous n'avez pas peur d'être accusé d'être radicaux ?
Mais non, monsieur. On ne peut pas être accusé de radicaux. Si M. Sassou veut vraiment un dialogue, ce n'est pas de cette manière-là qu'il veut le faire. Il envoie un courrier par son directeur de cabinet. Une convocation comme ça, en une nuit, pour dire que le lendemain, il y a concertation. Mais pour qui ça surprend les Congolais ? Et s'il parle de concertation, pourquoi il ne peut pas mettre un médiateur ? Pourquoi tout doit se faire autour de lui ?
Vous préférez un médiateur que le gouvernement de Brazzaville ?
Ben, écoutez, c'est préférable, parce que nous n'avons pas confiance à M. Sassou.
Des propos recueillis par Bagassi Koura. Fin du vote pour élire le président de la FIFA, vote qui doit départager Joseph Blatter, cet homme en poste depuis 1998, et son challenger, le prince Ali, âgé de 39 ans, un de ses vice-présidents. Et donc vote qui a pris fin. Le dépouillement apparemment se poursuit en ce moment. Nous allons certainement vous tenir au courant. Il faudra donc rester branché sur la VOA. Alors cette élection se tient alors que la FIFA est frappé par un scandale de corruption planétaire. Le président est élu par le Congrès de la FIFA avec 209 votants pour une période de 4 ans. L'élection est organisée à bulletin secret. Joseph Blatter a appelé les membres de la FIFA à serrer les rangs pour aller de l'avant. C'était peu avant le scrutin où il brigue donc un cinquième mandat. Blatter est attaqué de toutes parts et notamment par le président de l'UEFA, Michel Platini, qui lui a personnellement demandé hier de démissionner. Et donc, nous attendons les résultats de cette élection de la FIFA. Dans l'actualité encore, les gouvernements ne font pas suffisamment d'efforts pour empêcher leurs ressortissants de partir rejoindre les djihadistes du groupe État islamique en Syrie et en Irak. C'est ce qu'a regretté aujourd'hui l'ambassadrice américaine à l'ONU avant une réunion du Conseil de sécurité. Le Conseil se réunissait avec les ministres de l'Intérieur de ses 15 membres pour se pencher sur ce sujet pour la première fois depuis la diffusion d'une étude de l'ONU montrant un accroissement du nombre de combattants djihadistes étrangers. La situation dans l'est de l'Ukraine est devenue ces derniers jours plus fragile. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à Kiev le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, appelant à recourir à tous les moyens pour éviter une nouvelle détérioration. Les États-Unis ont retiré Cuba ce vendredi d'une liste noire d'États soutenant le terrorisme dans le cadre du rapprochement historique entre les deux pays après plus d'un demi-siècle de brouille. Cette décision, annoncée par le département d'État, était attendue depuis que le président Barack Obama s'y était dit favorable à la mi-avril. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tout à l'heure avec Le Monde Aujourd'hui. Jacques Aristide à Washington. Très bon week-end sur VOA. À très bientôt. Take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.